Bonjour à tous et bienvenue dans School Stories, le podcast qui vous fait découvrir les écoles autrement. Ces dernières sont en pleine mutation et doivent faire face au changement de paradigme du secteur de la communication. Aujourd'hui, les usages changent, les métiers aussi. Mais quels sont les nouveaux enjeux de la communication? Comment relever les défis du numérique? Quelles solutions pédagogiques pouvons-nous apporter aujourd'hui? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous allons interroger les différentes écoles du secteur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de School Stories. Aujourd'hui, nous sommes avec l'école Sup de Création, la grande école de création et de design à Paris. On va parler d'audiovisuel, on va essayer de comprendre ensemble les différents cursus que propose l'école. On va comprendre aussi où est-ce que ça va nous mener en termes de métier, les opportunités qui vont arriver derrière. Est-ce que l'audiovisuel recrute et si oui, comment en 2024? Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Pablo Tréhin-Marceau qui est réalisateur, formateur audiovisuel et professeur au sein de Sup de Création. Salut Pablo, comment tu vas?
Salut, ça va très bien. Et toi?
Écoute, ça va pas mal. On va parler d'audiovisuel avec Sup de Création, donc moi ça me va très bien.
Avec plaisir.
Et est-ce que pour commencer, tu peux me dire rapidement ce que tu fais à l'école? J'ai vu professeur, du coup qu'est-ce qu'on fait ensemble? Théorie, pratique, les deux?
C'est ça, alors moi je suis réalisateur de métier et je suis aussi professeur référent de la filière film au sein de Sup de Création. En termes de cours, on est beaucoup sur la pratique, on fait du contenu maximum pour que nos étudiants montent en skills et du coup on fait des contenus de tout type, de tout format, pour que en sortie d'école, ils puissent arriver sur le marché du travail complètement préparés.
Parce que j'imagine que c'est aussi des choses qui évoluent beaucoup sur les compétences techniques. Les caméras changent, les outils aussi. Mais peut-être ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est la capacité d'apprendre. Mm-hmm. Puisque de maîtriser un outil, c'est apprendre à apprendre.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu d'infos sur l'évolution de ce marché? Est-ce que tu as vu des tendances de fond se dessiner sur les dernières années?
Ce qui est important à savoir, c'est que nous, on crée du contenu audiovisuel. Et le contenu audiovisuel est devenu de plus en plus présent partout. C'est sûr que avant le contenu audiovisuel, il était fabriqué par des boîtes de production, des sociétés de production. Aujourd'hui, il est fabriqué par à peu près tout le monde, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Et bien sûr, au niveau des entreprises, il faut communiquer beaucoup et de manière très agile, fluide, pour qu'on ait envie de regarder le contenu. Et donc, l'audiovisuel se place en très bonne place. Donc, les débouchés, ils sont nombreux et ils sont pas que dans, on va dire, le secteur de cinématographique ou audiovisuel pur. Il est à peu près dans tous les autres secteurs où on va pouvoir créer même des pôles audiovisuels au sein de sociétés qui font, je sais pas, je pourrais dire, de la pharmaceutique ou dans le sport ou autour des langues, autour enfin, toutes sortes de domaines. En fait, l'audiovisuel arrive comme vraiment un médium. Et je pense que savoir le maîtriser aujourd'hui, c'est se rendre beaucoup plus employable, surtout si c'est accolé avec d'autres compétences.
Tu nous l'as dit au tout début, tu es réalisateur de métier. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous définir le job? Parce que on a beaucoup de définitions. Il y en a qui sont très techniques, il y en a qui sont beaucoup plus sur la direction d'acteur, d'autres qui sont plus sur la caméra, etc. Qu'est-ce que toi tu fais? C'est quoi le job de réalisateur?
Dans l'idéal, un réalisateur, c'est un maître d'œuvre. C'est quelqu'un qui vraiment maîtrise le contenu justement de A à Z, qui va être souvent à la source, à l'idée, qui va la développer en l'écrivant ou en co-écrivant. Ensuite, préparer cette idée, la rendre concrète, parce que ce qui est spécifique dans notre médium et dans notre art aussi, c'est que il y a une chose qui est très pragmatique. Il faut fabriquer les choses, il faut fabriquer les films. Et donc, pour ça, s'y préparer, c'est aussi à ça que l'école prépare, on va dire, beaucoup plus à la méthode, comment on en vient à passer d'une idée à un objet film. Et donc, du coup, il y a toutes ces étapes, donc la conception, l'écriture, la préparation, ensuite le tournage. Qu'on voit souvent, c'est la partie, on va dire, la plus sexy, la plus montrée, mais c'est souvent la partie la plus courte, parce que pour ça, pour avoir un bon tournage qui se passe bien, il faut l'avoir bien préparé pour pouvoir être prêt, parce qu'on a peu de temps le jour du tournage. Et puis ensuite, il y a toute la partie montage, image, son, mixage, étalonnage, pour arriver à un produit fini. Et donc, cette durée-là, sur un long métrage, elle va durer peut-être jusqu'à 3 ans, un an minimum. Et sur des produits, des contenus audiovisuels, ça peut être une semaine. Alors, ça dépend des moyens et du type de contenu qu'on produit.
On parle de compétences aussi, mais on parle aussi peut-être d'univers dans lequel on exerce ce métier. Il y a évidemment le cinéma, hein, c'est ce qui nous vient en tête directement. Puis après, il y a l'art de la série aussi, qui est peut-être un peu différent. Il y a la télé.
Bien sûr.
Il y en a aussi en radio et il y en a aussi en pub.
Bien sûr.
Est-ce que des ponts sont possibles entre ces différents métiers? Qu'est-ce qui va les rendre singuliers?
C'est ça. Alors, comme tu disais, le contenu audiovisuel, ça peut être aussi bien un film, un épisode de série, un clip, une émission, un live stream, une pub, une vidéo corporate. Donc, tout ça, c'est vraiment l'éventail très large et on peut imaginer encore d'autres formats parce que c'est un peu ça aussi le futur, trouver d'autres formats. Et ça veut dire que c'est autant de terrain d'expression et aussi autant de débouchés pour ensuite pouvoir tirer une subsistance, pour tirer des financements. On va dire que quand on connaît bien son métier, qu'on connaît à travers les arcanes, dans les structures, dans l'architecture, ce que nous on fait à l'école depuis la première année jusqu'à la cinquième, on essaie de vraiment de leur faire comprendre comment tout fonctionne dans les rouages, pour qu'ensuite justement tout ça, ça soit un savoir qui soit adaptable et qu'il puisse y avoir justement des ponts entre du print et de la vidéo ou de l'audio pur ou finalement une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, comment on a compris comment raconter une histoire et transmettre un message, finalement le médium importe peu. Il a sa spécificité qu'il faut connaître, mais il faut surtout comprendre ces mécanismes.
Et est-ce que tu as vu des changements dans les manières de raconter ces histoires? On a, je pense, beaucoup vu ces dernières années l'accélération des formats, de plus en plus courts, punchy, donc une écriture qui est quand même différente. Et en même temps, on est revenu sur des formats de pub télé plus longs, avec des exemples comme Intermarché. Du coup, aujourd'hui, les formes d'écriture, comment elles changent? Est-ce que c'est au rythme des saisons? Est-ce que c'est au rythme des formats aussi et des outils? Peut-être que TikTok aussi, mine de rien, a imposé un format. Est-ce que tu vois des évolutions là-dessus? Comment aujourd'hui on écrit un contenu?
L'évolution, je dirais que c'est justement dans la capacité à tous ces types de formats de cohabiter, en fait. Alors, entre justement le long métrage de fiction qui est de plus en plus long, qui va jusqu'aux 3h, 3h30 en salle.
Napoléon va être très long, la version longue,
voilà,
je crois.
Ça, oui, tant qu'à faire. Et arriver à des formats de 10, 20, 30 secondes. Et donc, en fait, l'important, c'est justement un réalisateur, ou quand je dis réalisateur, c'est aussi n'importe quel producteur de contenu, filmmaker, etc. Il faut qu'il sache faire aussi bien raconter une histoire et transmettre un message dans une pub de 30 secondes. Là, on fait des pubs, par exemple, avec les étudiants actuellement pour le club des directeurs artistiques, un concours créatif. Eh bien, il faut qu'ils soient capables, et c'est leur dernier projet de l'année, curieusement, un film de 30 secondes. Mais justement, parce qu'il faut avoir compris, en fait, comment on fait aussi un court-métrage plus long de 7-8 minutes, comment on raconte une histoire sur le long terme, pour qu'ensuite, quand on ramasse tout ça en 30 secondes, on puisse raconter une histoire tout aussi riche, tout aussi poignante, alors que pourtant, on n'a que ça, 30 secondes, pour s'exprimer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut apprendre en fait l'agilité et pouvoir être capable de raconter des choses aussi pertinentes sur 3h30 que sur 30 secondes.
C'est des choses que tu sens plus facilement intégrées dans la tête des étudiants que tu as aujourd'hui par rapport à il y a des années. Est-ce que tu les sens un peu plus à l'aise avec les formats? Est-ce que tu vois une appétence différente? Est-ce que tu les sens beaucoup plus au fait, vu qu'ils consomment peut-être plus de contenu que fut un temps? Parce que là, avec Netflix ou autre, tu as tout un tas de formats, même le documentaire. On n'en a pas parlé, mais il y a des documentaires à la réalisation folle. Est-ce que tu sens ces étudiants plus connectés, plus en lien avec les formats? Ou à l'inverse, vu qu'ils en consomment beaucoup, ils n'ont plus du tout de référence solide?
Alors, c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est là où on intervient en tant qu'école et où là, ça devient essentiel le travail qu'on fait. C'est-à-dire que, oui, il y a plein de références un peu partout, ça s'étoile, ça va un peu dans tous les sens, mais il y a peu de référents communs, déjà, entre eux et avec des générations, juste une au-dessus. Donc, nous, on revient à recréer un terreau culturel commun en leur montrant des références, en leur montrant que l'histoire du cinéma, elle a plus de 100 ans, plus d'un siècle, et comment, du coup, il faut et après, l'histoire de l'art, des milliers d'années, comment aussi il faut se réintégrer là-dedans pour pouvoir aussi se régénérer et pouvoir proposer des choses nouvelles et innovantes. Il faut bien connaître ce qui s'est fait avant. Il ne faut pas imaginer que justement parce que tu es en contact avec des choses nouvelles, tu vas pouvoir proposer des choses nouvelles. Non, c'est un peu paradoxal. Il faut connaître justement se régénérer dans ce qui a été fait avant, il y a 20 ans, 30 ans, 100 ans. Et donc les étudiants qu'on retrouve, des fois, ils sont un petit peu aussi des fois perdus en fait dans cette culture et on les reprend un petit peu et on les remet aussi dans une sorte de chronologie, on leur met un peu une timeline pour leur faire comprendre d'où on vient en fait créativement. Et donc c'est très important cette partie-là, et en leur donnant un certain nombre de références, en les renvoyant sur un certain nombre de films, de réalisateurs, de courants, etc., pour qu'ils puissent se repositionner en fait. Et c'est ce qui va après les rendre créatifs. Bien sûr, après, nous, on a des sortants de masters qui se retrouvent sur les réseaux, notamment TikTok, avec des grosses communautés derrière eux, mais mine de rien, ils ont été formés par nous et en comprenant plein de choses par ailleurs, même si ensuite après c'est pour faire des formats très courts. Je pense que la pertinence, elle est aussi possible quand on connaît très bien son métier, quand on sait faire un vrai film. C'est plus simple après de faire un petit TikTok plutôt que bricoler un TikTok à partir de rien. On va imiter du coup ce qu'on voit TikTok, des trends de trends, une trend, et puis après on a une version 2, 3, 4, 5. Créer du contenu nouveau, ça demande en fait finalement pas mal de réflexion et pas mal de creuser en fait ses refs et vraiment la conception.
Donc, pour être bon professionnel dans le milieu visuel, hein, pas que réalisateur, on y reviendra, mais il faut à la fois être bon techniquement, mais aussi avoir une sorte de bagage, de référence qu'on peut activer ou pas, comparer. Et il faut qu'il y ait aussi une capacité à aller piocher dans notre culture artistique. Et c'est peut-être ça aussi qui, aujourd'hui, va pouvoir faire la différence.
C'est ça. En fait, aujourd'hui, on n'a pas encore parlé, bien sûr, mais on va le faire de l'IA. L'IA, elle sera... elle peut remplacer tout ce qui n'est pas humain. En fait, ce qui fait la spécificité de l'humain, sa capacité créative, sa capacité de réflexion, sa culture, etc., c'est ce qu'on ne peut pas lui enlever et ce qui va être compliqué ensuite de modéliser, je pense. Donc aujourd'hui, pour résister aux tendances actuelles et plutôt plus que résister, s'en emparer comme des outils, il faut être capable d'avoir quelque chose à lui faire dire, en fait. Et du coup... bah, bien sûr, la technique, la maîtriser. Et aujourd'hui, c'est de toute façon essentiel de savoir éclairer un set, de savoir monter un film, de savoir étalonner un film, de savoir faire du mixage, du montage. Tout ça, c'est essentiel. C'est ce qu'on fait en grande partie à l'école parce qu'on leur fait faire un certain nombre de choses et on leur donne des cours et on les suit. Mais aussi, on leur dit, attention, il faut de la substance, il faut du sens, il faut être capable de réfléchir, de pouvoir avoir des humains avec lesquels on peut interagir, avoir des conversations intéressantes, avoir des débats créatifs. Et je pense que les clientes d'aujourd'hui, les clientes de demain vont chercher ça. Si c'est pour avoir quelque chose de bien fait, mais comme ça peut être fait par une machine, on va tourner vers la machine. Par contre, avoir quelque chose d'un peu original, d'un peu senti, d'un peu émouvant, bah là, il faudra toujours se tourner vers l'humain, et c'est pour ça qu'il faut des humains particulièrement outillés, cultivés, intelligents, créatifs. Et je pense que c'est ce qu'on fait à l'école, c'est ce qu'on a, passe beaucoup de temps et de rigueur, notamment sur l'écriture, sur la préparation, pour que quand on va tourner quelque chose, c'est pas un énième film, un énième contenu, mais c'est un contenu qui a de la substance et qui va durer, qui va pouvoir tenir. Je pense que les films qu'on a fait depuis les 5 dernières années tiennent encore la route encore aujourd'hui parce qu'ils ont été faits avec suffisamment de sérieux.
Aujourd'hui, évidemment, on a évoqué, on a commencé avec ton métier de réalisateur, mais quand on parle d'audiovisuel, c'est une multitude de jobs, c'est des cadreurs, c'est des monteurs, c'est des chefs opérateurs, c'est des assistants réalisateurs qui est un rôle hyper important pour ceux qui ont envie de découvrir ça. On parle de montage aussi sur uniquement de l'audio, donc des experts du son, qui est quand même quelque chose de très très technique, notamment en radio et en télé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler un petit peu des débouchés de l'école, avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez des partenariats avec des studios? Où est-ce que vont vos étudiants? Vous les préparez à quel type d'univers?
Bien sûr. Alors, comme tu disais justement, le réalisateur, il va être le maître d'œuvre, on va dire, mais autour du maître d'œuvre, il y a une constellation, en fait, de métiers, et pas que des, on va dire, des gens en dessous en termes de hiérarchie, mais des collaborateurs, des gens qui vont être aussi au même niveau. Et on a parlé de toutes les phases de la création d'un film. À toutes ces phases-là, il y a autant de métiers qui correspondent. Bon, bien sûr, on parlait de l'écriture, il y a le métier de scénariste, et de scénariste pour chacun de ces types de contenus existe. Ensuite, en termes de préparation, bien sûr, il faut outiller, on parlait de l'assistant réalisateur, mais il y a la script aussi, il y a le régisseur, les chargés de production, directeurs de production, directrices de production. Et après, dans le tournage, on a tous les métiers sur le plateau. On va avoir donc le chef opérateur, les premiers opérateurs, deuxième opérateur, assistant opérateur. On a encore la script et l'assistant qui interviennent, mais on a aussi les chefs décorateurs, chefs costumiers, tous les métiers du plateau, machinaux, électro. Et ensuite, on a toute la phase post-production qui est aussi très importante, de montage image, de montage son, de mixage et d'étalonnage, qui est aujourd'hui très important, de travailler sur la couleur et la lumière. Tous ces métiers-là qui gravitent font que les personnes qu'on forme, on les forme de manière transverse pour pouvoir affronter en fait toutes ces différentes facettes, en ayant fabriqué et en étant vraiment les mains dans le cambouis. Quand ils ressortent de là, ils sont vraiment polyvalents, ils sont couteau suisse. Ils vont pouvoir rentrer par plein de moyens différents. Alors, n'oubliez pas qu'en 3e, 4, 5, on a des étudiants qui sont en alternance. Et donc, ils sont déjà, grâce au travail dans leur alternance, ce sont des travailleurs qui sont en activité. Donc, l'alternance crée aussi des débouchés en eux-mêmes, où les personnes continuent en CDI, par exemple, ou sous forme de freelance. Mais s'il y a aussi travailler en alternance, ils ont aussi créé un petit réseau. Et puis, en fait, le travail aussi... qu'on fait sur les projets à chaque fois, on les met sur des projets concrets. Donc, on va faire travailler sur un clip, on va faire travailler vraiment avec un label réel et un musicien. Donc, ça, après, un clip bien réalisé, ça donne envie d'en faire un suivant. Quand on fait de la pub, c'est toujours sur des concours créatifs dont on est souvent lauréat. Et donc, du coup, c'est aussi des opportunités ensuite de carrière. Et après, il y a tous ces métiers de technique ouvrent aussi à l'intermittence, ouvrent aussi, certains étudiants préfèrent le freelance pour pouvoir travailler des projets personnels, justement, en réalisation ou en image, et pour subsister, travailler en tant que technicien, justement, en tant que monteur, en tant que coopérateur. Voilà, il faut imaginer quand même que l'audiovisuel aujourd'hui était vraiment en pleine explosion, qu'il y a des débouchés, je vous dis, directs dans les secteurs de l'audiovisuel et cinématographique. Mais il faut oublier que toute société qui a l'air un petit peu solide est potentiellement demandeuse d'un technicien de l'audiovisuel ou d'un professionnel de l'audiovisuel ou d'un cinéaste, ou directement pour justement faire, on va dire, ponctuellement un projet, mais aussi, pourquoi pas, monter carrément un pôle audiovisuel au sein de ces entreprises-là, parce que aujourd'hui, il faut communiquer, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, il faut communiquer souvent et il faut créer du contenu de qualité. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence justement fait que malgré l'accessibilité, on va dire, des outils, il ne suffit pas d'avoir une caméra qui a une belle optique ou un peu de lumière, etc. pour faire une belle image, pour citer un exemple. Avoir travaillé pendant plusieurs années le travail de la lumière, le travail de la composition, le travail aussi de la mise en scène, fait que au résultat, on voit la différence. Et les entreprises malines, c'est des entreprises qui vont se tourner vers des professionnels.
Ouais, donc au final, on se rend compte que tout ça, c'est des métiers qui sont pas uniquement liés au talent, de savoir bien écrire, savoir bien tourner, avoir la bonne image parce qu'on a la bonne idée, c'est aussi des choses concrètes, c'est de la maîtrise technique, de la maîtrise aussi de compétences un peu plus théoriques, c'est-à-dire, ok, on a compris l'histoire du cinéma, du coup, on peut se projeter, on a compris l'histoire et la mécanique un peu scientifique du son, on comprend comment ça marche, du coup, on se projette, micro-crânon, micro-cravate, qu'est-ce qu'on choisit, donc c'est des compétences théorique, un peu aussi historique, on va dire, artistique, technique, qui font qu'on est un bon professionnel de l'audiovisuel. Et on le voit avec les cursus que vous avez, je suis en train de parcourir le site, mais dès la première année, en post-bac, on peut venir chez Sub de Création pour apprendre ces métiers-là, jusqu'en sortie bac plus 5, qui aussi va proposer de l'alternance, comme tu l'as dit. Et ça fait partie aussi des côtés positifs, c'est-à-dire que on est quand même sur des métiers où il fait bon mettre les mains dans le cambouis.
Bien sûr.
Si on n'a jamais tenu de cam,
bien sûr,
il faut le faire. Il faut se tester, il faut s'essayer, il faut avoir un bon gros background théorique. Mais il faut aussi aller se tester, il faut aussi aller voir ce que c'est que réaliser un contenu, monter, et tu vas te rendre compte, ouais, j'aime bien le montage, ou à l'inverse, je suis beaucoup plus son, ou j'adore le montage et le rendu, mais je crois que je préfère être au début, lorsqu'on pense les plans, et à travers ça, on arrive à se projeter aussi, parce que l'univers, comme tu l'as dit, de ce monde-là, il est très vaste, beaucoup de métiers, beaucoup d'acteurs, des grosses structures, des plus petites structures, bah, il faut trouver sa place. Est-ce que je veux un peu tout faire efficacement dans un studio, c'est très bien, j'ai une importance, mais je fais un peu tout. Et en termes de salaire, on sera différent d'un grand groupe où je fais une seule tâche, entre guillemets, qui est celle du montage d'émissions. J'ai peut-être un meilleur salaire. Et en même temps, je fais qu'une seule tâche, entre guillemets. Donc, c'est aussi se projeter sur ce qu'on a envie de faire. Et comme tu l'as bien dit, aussi casser le côté j'ai une idée, je vais la lancer, ça va marcher très cool. Avec mon téléphone, je peux faire plein de trucs. On a vu la limite, je pense, de ça.
Bien sûr.
On a vu que le smartphone a amené beaucoup de créations de contenu intéressantes, de qualité, qui pouvaient nourrir le réseau. Et là, on arrive, et on le voit beaucoup avec les créateurs YouTube, on voit qu'on arrive sur des prods beaucoup plus léchés. Et tu regardes l'équipe de Squeezie, l'équipe de Cyprien, l'équipe de Inox, toutes les équipes de Webedia. C'est des monteurs, c'est des cadreurs, c'est des chargés de prod. Et c'est peut-être un peu moins en lien avec les métiers techniques de l'audiovisuel, mais tous ceux qui sont du côté de la prod, ils sont pas sur la cam, mais c'est eux qui vont gérer les invités, qui vont gérer le programme, qui vont faire en sorte qu'à 18h01, ça soit rendu, et pas 18h02. Et ça aussi, on a besoin de ces profils-là.
C'est ça. D'ailleurs, ça fait, les youtubeurs font partie des sociétés qui emploient nos alternants beaucoup, parce que justement, ils ont besoin de main-d'œuvre de qualité. Et tu parlais du talent. Le talent, c'est bien comme étincelle, mais en fait, comme on voit dans les sportifs de haut niveau, voilà, un talent, c'est le début. Après, c'est énormément de travail et de travail bien canalisé. Nous, on les canalise dans des travaux. On est des makers, hein, creative makers. On est là, on fait des choses. La théorie, elle est là pour soutenir la création et les choses qu'on fait concrètement. Donc, on vient la distiller au fur et à mesure des références, au niveau des points techniques, etc. Mais on est toujours au service de projets. On marche par projet et ils en font des dizaines, hein, avec nous. Pour pouvoir se frotter avec une vraie commande, une vraie deadline, pour qu'ils sachent faire et qu'une fois sortis de l'école, ce soit naturel en fait d'aller sur un projet, de devoir rendre, comme tu dis, en temps et en heure un projet, de avoir la responsabilité de le faire, de le faire bien. Voilà, c'est des choses. Je pense qu'aujourd'hui, l'école est un endroit très important, primordial, parce que justement aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de contacts et on va dire de facilité pour des tutos, un certain nombre de savoir, mais encore une fois, éclater. Étoilé, en fait, on peut vite être noyé, perdu et avoir pris que des grappillés, justement, que des morceaux à droite à gauche, sans finalement faire cohérence. Et nous, quand on arrive là, après, nos étudiants qui arrivent des fois arrivent en troisième année ou en 4-5, et ben des fois, il faut reprendre une partie, justement, de leur savoir qu'ils ont, malgré tout, à accumuler à droite à gauche, et des choses très bonnes aussi. Mais en fait, il y a pas mal de lacunes, en fait, quel que soit leur niveau technique, par exemple, sur l'image, concrètement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de champs aveugles qu'ils ont laissés, parce qu'en fait, souvent, on va toujours vers ce qu'on sait bien faire et on creuse, mais par contre, ce qu'on sait moins bien faire, et ben, on va pas le creuser. Et résultat, au bout de quelques années, on va se retrouver à être en lacune parce qu'on se déconnecte, en fait, d'opportunités, parce qu'on ne sait pas le faire. Nous, on les oblige, de toute façon, ils tournent sur les postes, ils font de tout. Et comme ça, voilà, ils l'ont fait, ils se sont frottés, ils ont eu l'opportunité, et surtout, on est un endroit safe où, du coup, tu as le droit de tromper, tu as le droit de faire des erreurs, tu peux, au contraire, ça veut dire que c'est bon signe, ça veut dire que t'as essayé.
T'es à l'école.
Voilà, t'as essayé, t'as réussi. Par contre, on est sur le résultat concret. Quelles que soient les erreurs, t'as perdu un acteur, t'as eu de la neige, t'as eu. Au final, il faut que tu rentres. Tu rends ton projet, bah, il n'est peut-être pas tel que tu l'as imaginé, mais tu t'es débrouillé pour rendre quelque chose, et ça te renforce. Parce que film après film, vous voyez, par exemple, en master, on fait des gros projets avec classe entière, donc on a une vingtaine de personnes pour qu'on ait des plateaux conséquents avec tous les différents corps de métier représentés. Ça veut dire quand même quelque chose d'assez impressionnant, et du coup, ça permet ensuite, quand on sort de là, d'être capable aussi de pouvoir faire ce genre de tournage. Et ben, néanmoins, les 20 étudiants, la première semaine, doivent écrire un scénario. Ils doivent tous rendre un scénario, et du coup, on en élit un, c'est eux qui le choisissent, celui qui veut le tourner. Mais en attendant, les 20 ont travaillé, ont été corrigés, ont avancé, et reviennent avec le savoir, ils l'ont. Et ensuite, hop, on remet dans le pot commun, on travaille tous ensemble sur un projet, parce que c'est plus intéressant d'avoir un gros projet où tout le monde est investi. Mais n'empêche que, et pareil, quand on revient en post-production, eh ben, on a autant de montage que d'étudiants. Alors, la plupart font le film, mais il y a aussi des nouvelles versions alternatives, il y a le making-of, il y a la bande-annonce. Et donc, du coup, tout le monde a travaillé autant, a autant appris, parce qu'on part à chaque fois sur l'idée individuelle collective. Il faut que chaque étudiant ait progressé individuellement, mais il est aussi au service d'un film, parce qu'on a le propre du cinéma, c'est que enfin, l'audiovisuel, c'est la plupart du temps collectif. Il faut coaguler des fois même de petites équipes, mais déjà 2-3, c'est une équipe. Voilà, c'est vraiment notre credo à l'école. Et pour moi, l'école, c'est un lieu essentiel. La suite de création est une école de création qui vraiment permet aux talents de s'épanouir et aussi de se solidifier. On a parlé de talent, il en faut. Mais le talent seul s'étiole rapidement. Il faut vraiment qu'il soit consolidé pour ensuite pouvoir être pérenne et pouvoir être employable sur le marché du travail. Pareil, souvent, on a les images glamour du cinéma, etc. Il y a une sorte d'effet paillette qui fait que, du coup, voilà, c'est réalisateur ou rien. Non, réalisateur, c'est un métier parmi d'autres. Il y a tous les autres métiers qui sont tout aussi intéressants. Et souvent, des étudiants qui viennent en imaginant ça, quand ils en sortent, ils partent sur d'autres voies. Et c'est aussi l'intérêt de l'école. Mais parce que, en fait, c'est pas l'idée, c'est pas le prestige. C'est où est-ce qu'on est bien. Comme tu disais tout à l'heure, certains vont plus être à l'aise derrière un ordi la plupart de la journée. Ben, du coup, voilà, ce sera plutôt des profils de post-production, donc en montage, en mixage, en étalonnage. Mais encore une fois, c'est vaste. Hein. Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est la narration avec le montage? Ou est-ce que c'est vraiment justement être dans le show du terrain, d'être vraiment dans l'urgence du tournage, des aléas, etc. Donc là, ça va être des gens qui vont être plutôt sur des plateaux et qui vont aller faire assistant réal, script, ou bien surtout les métiers autour de l'image. Ou est-ce que c'est plutôt des gens qui ont envie de cogiter, d'écrire des histoires, de s'en mêler le cerveau, et puis après de le réemmêler, de remettre tout à l'endroit pour créer des histoires qui soient fortes. Et puis après, tous les métiers aussi de la préparation, de la production, où du coup, on va concrètement comment on fait, où est-ce qu'on trouve l'argent,
oui, c'est
comment
ça.
On organise un plateau.
Ça fait partie de ça aussi, puisque tu l'as dit, il y a effectivement les paillettes, on a les grands noms, hein. Vous bossez aussi avec des très jolis partenaires pédagogiques, je pense à Allociné, vous avez bossé avec Canal, le Club des DA, les agences comme Marcel, La Young, etc., Agence W. Mais effectivement, il y a une réalité qui est inhérente aussi à ces métiers, qui est le côté un peu plus business, c'est-à-dire, on a ce format à réaliser. Où, quand, comment, avec quel argent, est-ce qu'on tient les délais en termes de timing, là, on va dépasser de 2000 euros, est-ce que c'est entendable, oui, non. Et ça fait partie aussi du job.
Bien sûr.
Et comme on disait tout à l'heure, ça va amener des compétences, pas forcément des hard skills, mais des compétences humaines, de se dire, OK, j'ai un planning, je le tiens, du coup, je suis en mesure de gérer une équipe de 30 personnes. Alors que peut-être que je fais 1m50, mais pour autant, je suis le meilleur pour driver cette équipe parce que c'est mon métier et que je connais les deadlines et les enjeux financiers, de projets, de partenaires. Il pleut. Bah ouais, il pleut, mais du coup, si on était venu une heure avant, on n'aurait pas eu la pluie. Donc, calons un tournage. Enfin, et ça, c'est important aussi de se dire, comme tu dis, de se confronter aux réalités du métier pour ensuite, l'affinité, c'est quoi? C'est d'être bon et d'être employable.
Bien sûr, c'est quand même ça
le but ultime que vous avez à l'école. Et nous, on se connaît très bien avec Sub de Création aussi. Hein, donc, on voit comment vous accompagnez les étudiants. On voit aussi ce qui ressort, les projets, la manière de bosser. Donc, on voit aussi la capacité que vous avez à mettre les étudiants un peu en situation sur le terrain, quoi,
bien
pour qu'ils se confrontent.
Ah,
et on sent que, quand ils sortent de là, c'est des profils qu'on aime bien recruter, c'est des profils qu'on aime bien recommander, c'est des profils qui, effectivement, sont toujours enclins à se mettre au travail.
Bien sûr.
Ça, c'est quand même assez agréable.
Bah, de toute façon, dès le premier cours, on leur dit, si vous n'avez pas envie de vous mettre au travail, ne restez pas. Parce que de toute façon, il n'y a que en allant au charbon qu'on monte en skills déjà. Parce que de toute façon, on peut pas monter en skills si on se met pas à faire les choses. J'ai un étudiant un jour qui a osé me dire qu'il avait rien appris en scénario. Et je lui ai dit, rappelez-moi, vous n'êtes pas rendu de scénario. Non. Je dis, vous pouvez pas apprendre, en fait, si vous produisez pas un scénario. Il faut écrire, il faut faire les choses soi-même. Et puis ensuite, on est corrigé. Nous, on est des interlocuteurs. À chaque étape, on est là, en scénario, par exemple, jour après jour, on fait monter les étapes pour arriver jusqu'à la continuité dialoguée. Et ce qui est fort, c'est justement un étudiant qui a jamais écrit un scénario. Le lundi, le vendredi, il a écrit un scénario, il a écrit un scénario. Et il peut dire, à partir de ce premier scénario, bien sûr, il faut en écrire des dizaines avant d'être bon. Mais au moins, il a écrit le premier. Et puis, à chaque projet, il faut réécrire. Et du coup, force, on en vient, et en fait le problème c'est que, on parlait du sport tout à l'heure, des fois on a des performances de sportifs qui sont vraiment incroyables, mais on a un sourire, on a une sorte d'image qui fait qu'on a l'impression que tout ça est facile, tout ça est cool de source, alors qu'en fait non, le sportif il a passé 10 heures, 12 heures à se préparer par jour pour en arriver là. C'est pour ça que j'aime bien le documentaire qui a été consacré à Aurel San par son frère, parce qu'on voit à quel point il faut bosser, à quel point c'est long, à quel point il faut y passer du temps pour arriver à tailler à son instrument jusqu'à arriver à quelque chose de très pointu, très tranchant, pour pouvoir être vraiment efficace. Donc nous, on les met vraiment sur des projets concrets pour qu'ensuite, ils puissent avoir le bénéfice de ces projets-là et pour qu'ils puissent s'intégrer après dans leur corps, dans leur chair. Quand on fait des tournages, quand on fait 5 jours de tournage d'affilée, qu'on fait justement des fois des extérieurs, des nuits, etc., par rapport à des projets qu'eux proposent, on les oblige pas, c'est que d'un coup, ils se challengent. Et je peux vous dire qu'après même cinq jours de tournage à la suite, dans un contexte d'une équipe de 30 personnes, parce que 20 personnes d'un étudiant, mais après, il y a tous les acteurs et tout le reste de l'équipe, une trentaine de personnes, je peux vous dire que au bout des 5 jours, ils sont rincés, mais ils savent faire. Ils ont
le premier terrain.
C'est ça. Et quand on va les envoyer sur un plateau, ils seront pas perdus. Ils sauront qui fait quoi, qui a quelle page. Bien sûr, il faut continuer à apprendre, etc. Je dis pas que c'est magique, mais au moins on est dans une sorte de dynamique qui fait qu'ensuite, comme tu disais, on travaille sur l'employabilité. Moi, ça m'intéresse pas de saturer le marché, et c'est pour ça que du coup, on parlait de talent et comme aussi l'artistique. Des fois, on peut imaginer des choses. Je suis un artiste. On s'imagine déjà un peu planer. Non. en tout cas dans le cinéma, on peut pas être seulement un artiste. Si on n'est pas là, faut être un artiste. Donc les pieds, la tête dans les nuages, mais les pieds
technique.
Bien, voilà, et les pieds bien sur terre.
Ouais.
Savoir concrètement comment on fait, et surtout savoir se rendre employable, c'est pouvoir se dire, ok, d'accord, quand je fais mes propres films, je vais être très très niché, très c'est mes films, puis j'ai comme ça que je les imagine. Mais par contre, je vais aussi être capable de mettre au service d'une entreprise pour lui faire sa publicité ou une petite vidéo corporate ou faire un clip pour un autre artiste. Il faut savoir être vraiment très agile, avoir sa, la capacité de donner sa patte, parce que du coup, on attend ça de vous, mais en même temps, la mettre au service d'un autre message, d'une autre histoire, parce que c'est comme ça qu'on sera employable, et c'est comme ça, après, nous, on veut des étudiants qui continuent à vivre après l'école, qui sont dans le marché du travail, mais l'idée, c'est pas de brosser un portrait, on va dire justement, trop glamour, en fait. On fait plein de choses glamour, mais il faut alterner dans des projets où, des fois, en général, on dit que le rapport argent-intérêt des projets, il est... également enfin inversement proportionnel. Plus on fait un projet qu'on vraiment on adore, etc., souvent il y a peu de moyens, puis on fait des projets qui sont plus alimentaires et du coup il y a beaucoup plus de moyens, donc on trouve l'équilibre pour vivre de ce qu'on fait et en même temps s'éclater, parce que malgré tout, même si on fait des choses qui peuvent paraître de l'extérieur comme du corporate pas très sexy, en fait on rencontre des gens vraiment très intéressants, on s'intéresse à des sujets qu'on n'aurait pas évoqués, je sais pas, comme la banque, l'agroalimentaire, enfin tous ces sujets là en fait, si on est curieux, et nous attendons vraiment des étudiants curieux, et on va nourrir cette curiosité là et on va donner aussi surtout les outils pour en faire quelque chose de concret pour pouvoir ensuite s'en servir et en vivre. C'est ça aussi l'objectif, hein.
Pour terminer cet épisode, en termes de recrutement, comment ça fonctionne, est-ce que tu peux nous dire concrètement les next steps, si quelqu'un nous écoute et a envie d'aller découvrir l'école et surtout de candidater, comment ça marche?
Alors, eh ben, il faut se tourner du côté du service des admissions, Nicolas Cortesis et l'ICIS, qui s'occupe justement du recrutement. Donc, envoyer un petit mail. Alors, je ne l'ai pas là, mais je pense qu'il sera en...
Il y a tout sur le site. Ouais, mais c'est concours, c'est dossier, c'est comment ça
alors,
marche?
Alors, prise de contact. Ensuite, il y a un premier entretien. Et ensuite, oui, il y a une forme de concours. Il faudra livrer, là en film, une courte vidéo pour montrer justement à quelle étape vous en êtes de votre projet, de votre capacité notamment technique et artistique, pour savoir à quelle année vous pouvez prétendre. Parce que nous, dès la première année, on forme des étudiants. Donc quand ils arrivent en fin de deuxième année, donc à l'entrée de bachelor, ils ont déjà un bagage certain. Donc pour pouvoir prétendre, par exemple, rentrer directement en bachelor, il faudra vraiment montrer les skills qu'il faut. Après, nous, on attend vraiment des étudiants, comme je vous disais, curieux, qui ont envie, bosseurs. Et ces étudiants-là, ils s'éclatent avec nous parce que du coup, il y a de quoi faire. On les encadre bien, je pense. On a, alors, je vais pas se préciser, mais que tous ces différents métiers, toutes ces différentes étapes de la réalisation d'un film, à chaque fois, on a des profs dédiés au scénario, des profs dédiés à l'image, au montage, au son, à la post-production. Après aussi sur la culture, on a aussi des profs en culture générale, mais aussi en culture cinématographique. Voilà, on a vraiment des gens, et c'est toujours des personnes en activité qui par ailleurs travaillent et donc sont vraiment pertinentes dans leur connaissance du médium et dans leur mise à jour aussi du savoir.
Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, évidemment, le site de Sub de Création est ouvert avec toutes les infos. Je navigue dessus au moment où je vous parle. Évidemment, sur J'ai un pote dans la com, la page dédiée à l'école avec les différentes actus, les différents projets, notamment un qui m'avait particulièrement marqué, qui était celui des cosplays. C'était très sympa, réalisé par les étudiants. Donc, si vous êtes intéressé par les métiers de l'audiovisuel, comme on l'a dit, qui sont multiples et qui sont ultra passionnants et qui, en même temps, permettent de découvrir des univers auxquels on n'aurait pas pensé forcément, c'est sur Sub de Création. Merci à toi, Pablo, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je t'en prie, merci beaucoup.
Je suis ravi de t'avoir eu ici. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de School Stories.